Le journal Sébastien Logeni. Bonjour Sébastien.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. À la une ce matin, un conseiller d'Emmanuel Macron impliqué dans des violences lors du 1er mai dernier. L'homme s'occupait de la sécurité du président depuis la campagne présidentielle. Une vidéo le montre frappant un manifestant. Un comportement qui ne lui a valu que 2 semaines de suspension. L'opposition demande à la justice de se saisir. Malaise dans les couloirs de l'Élysée. L'invité du grand entretien ce matin, Frédéric, c'est la patronne de la Française des Jeux.
La présidente directrice générale, Stéphane Falaise. Pourquoi privatiser la Française des Jeux? Les risques d'addiction aux jeux, les circuits de blanchiment d'argent passent-ils par les jeux de hasard? Y a-t-il un effet Coupe du Monde sur les paris sportifs? Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions à lui poser au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Au programme également, une grève à la SNCF aujourd'hui, mais sans grévistes ou presque, pas de perturbations à prévoir. Une charte entre le gouvernement et les entreprises pour lutter contre l'homophobie au travail. Les partis de gauche déjà prêts pour les élections européennes. Un scandale de commerce de nourrissons au sein de l'organisation de Mère Teresa en Inde, et puis des cloches qui s'envolent, on vous dévoile le mystère en fin de journal.
France Inter.
C'est une affaire qui commence à sérieusement embarrasser l'Élysée. Une histoire où l'on découvre les penchants parfois violents de l'ancien chef de la sécurité du candidat Macron. L'homme s'appelle Alexandre Benalla, jusqu'ici inconnu du grand public, mais dont l'identité a été révélée hier par le journal Le Monde. Nos confrères qui publient une vidéo où l'on voit un manifestant du 1er mai à Paris frappé au visage par un homme portant un casque de police.
C'est qui? Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre!
Voilà, extrait de cette vidéo. Ce visage, l'homme qui se cache sous un casque siglé et qui portait ce jour-là un brassard de police, est donc un proche collaborateur de l'Élysée. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Alors comment ce conseiller de la présidence, Alexandre Benalla, se retrouve-t-il le 1er mai dernier à porter des coups à un homme à terre?
Mais il faut remonter à la campagne d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla a d'abord été responsable de la sécurité du candidat après avoir gravité dans les cercles socialistes où il n'a pas laissé que des bons souvenirs, viré notamment par le ministre Arnaud Montebourg en 2012. Un ancien de l'époque se souvient que Benalla se baladait armé et avec gyrophare dans Paris à chaque fois qu'il prenait seul la voiture. Embauché à l'Élysée en 2017 pour seconder le chef de cabinet du président, il a souhaité voir comment se gérer sur le terrain un policier une grande manifestation. Celle du 1er mai en l'occurrence. Il a donc demandé l'autorisation au directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui lui a donné, mais comme Patrick Stroda l'a confié au Monde, en précisant que ce n'était qu'un observateur. On connaît dorénavant la suite. Très vite après les faits, l'Élysée est mise au courant de ces agressions. Emmanuel Macron est prévenu par son directeur de cabinet qui lui inflige une sanction, une simple suspension temporaire de 2 semaines. À son retour, le chargé de mission est rétrogradé et depuis il s'occupe de la logistique pour des événements organisés à l'Élysée, comme lundi avec la réception des Bleus, où il a été chargé, je cite, un conseiller élyséen, des valises des joueurs.
Alors vous le disiez, Alexandre Benalla était donc suspendu de ses fonctions précisément entre le 4 et le 19 mai dernier. Une sanction bien trop légère au vu de la gravité des faits, dénonce l'opposition qui demande à saisir la justice. Écoutez, pour la France Insoumise, le député Hugo Bernalicis.
Je trouve ça complètement hallucinant. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce monsieur, il ait au moins des sanctions équivalentes à ce qu'aurait eu un policier, alors même qu'il n'est pas policier. Et puis, il y a une deuxième chose. Pourquoi les hommes qui sont censés aussi l'encadrer, puisqu'ils sont censés dans une équipe de CRS, je vois un autre policier en civil, pourquoi est-ce qu'il le laisse faire? Donc clairement, Emmanuel Macron doit se ressaisir sur le dossier. Gérard Collomb, il faut qu'il réponde aussi de comment ça se fait que ça se passe de la sorte que l'encadrement ne bouge pas, et puis il faut que la justice se saisisse de l'affaire.
Le député France Insoumise, Hugo Bernalicis. Alors Cyril Graziani, je reviens vers vous. Que dit-on aujourd'hui de cette affaire à l'Élysée?
L'Élysée nous a confirmé tout ce qu'il y a dans cet article. Hier soir, en sortant vers minuit de son dîner avec des élus de Dordogne à Périgueux, Emmanuel Macron, en revanche, s'est refusé à tout commentaire. Soirée mouvementée pourtant hier soir à Paris, où l'on tente de minimiser l'importance et le rôle de Benalla dans le dispositif. Ce n'est qu'un chargé de mission, dit l'un d'eux. Des scénarios ont néanmoins été proposés au président. Le licenciement de Benalla d'abord, et d'autres qui estiment que l'Élysée doit assumer ses actes et donc la première sanction. Le licencier, dit un conseiller, ce serait admettre que la présidence a mal jaugé et mal jugé cette affaire. Rester droit dans ses bottes et ne pas céder ni aux critiques de l'opposition ni aux injonctions de l'opinion publique, c'est traditionnellement la ligne Macron. Sauf que sur une affaire comme celle-ci, ça peut très vite montrer ses limites.
Cyril Gradiani, merci du service politique de France Inter. Et puis en attendant une réponse plus étayée de l'exécutif, Emmanuel Macron, lui, va tenter de reconnecter avec les territoires ruraux. Aujourd'hui, le président en visite en Dordogne, à Périgueux, où se trouve Cyril Gradiani, justement, pour présenter notamment le nouveau visage de la Marianne qui ornera les prochains timbres-poste.
La victoire des Bleus et le début des vacances nous l'auraient presque fait oublier.
Et pourtant, la grève à la SNCF continue. Préavis de grève de 24 heures déposé aujourd'hui par la CGT. Le premier syndicat des cheminots se retrouve toutefois bien isolé. Il est le seul aujourd'hui à faire durer le mouvement. Raphaël Ebenstein.
Cette fois, l'unité syndicale inédite qui a perduré à la SNCF pendant les 36 jours de grève en pointillé semble bien loin. Après avoir encore choisi d'accompagner la CGT les 6 et 7 juillet, Sudrail s'est en effet abstenu aujourd'hui, comme l'UNSA et la CFDT qui avaient déjà décidé de suspendre la grève pendant l'été. Mais pas de quoi décourager, visiblement, Thierry Nière, secrétaire général adjoint de la CGT cheminot.
La mobilisation en tant que telle peut paraître compliquée, déjà parce que le corps social a besoin de souffler un petit peu. Pour nous, c'est certes, je dirais, moins confortable, mais c'est une nécessité d'agir et nous poursuivons d'ailleurs au-delà du 19 puisque d'autres rendez-vous sont d'ores et déjà programmés.
La CGT cheminot prépare en fait déjà une nouvelle journée de grève le 27 juillet, date d'un conseil de surveillance de la SNCF. Mais là encore, ce sera seul, Sudrail ne s'y associera pas. Et même s'il n'y a officiellement aucune fâcherie entre les grandes fédérations de cheminots, certains s'interrogent en privé sur la stratégie jugée jusqu'au boutiste de la CGT, qui serait surtout motivée par la perspective des élections professionnelles en novembre à la SNCF et poussée par la direction de la centrale, Philippe Martinez en tête.
Raphaël Ebenstein, et puis côté trafic, presque aucune perturbation à prévoir selon la direction de la SNCF, sauf de très légères adaptations en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Plus perturbante pour les vacances, la grève des personnels de cabine à venir à Ryanair. Les syndicats appellent à cesser le travail les 25 et 26 juillet prochains en Espagne, au Portugal et en Belgique pour dénoncer les différences de salaire et de conditions de travail d'un pays à l'autre. 600 vols risquent d'être annulés en Europe et 100 000 voyageurs concernés.
France Inter 8h07, le journal de Sébastien Logeni. Le gouvernement cherche un moyen de lutter contre l'homophobie au travail.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'apprête en effet aujourd'hui à signer une charte avec de grands groupes comme la société d'informatique IBM ou les magasins Casino. Les inspecteurs du travail également seront sensibilisés à cette question afin d'être plus vigilants sur la discrimination contre les personnes LGBT. Une discrimination en entreprise qui a parfois des conséquences très lourdes pour certains salariés, comme celui qu'a rencontré Laurent Kramer.
Victime d'insultes homophobes il y a 14 ans sur son lieu de travail, Yves Alexandre explique n'avoir jamais depuis remonté la pente.
Il y a 14 ans, je subis des insultes homophobes chez Orange. On m'a déplacé, on m'a mis sur un autre poste. Le mot homophobie, l'entreprise n'en voulait pas. L'entreprise a fait croire qu'elle avait pris en charge mon dossier. Le problème n'est pas traité.
Délocalisé dans un autre service pour faire taire les insultes homophobes, Yves Alexandre se sent placardisé et constate au fil des années que ses nombreuses candidatures n'aboutissent jamais jusqu'à ce rendez-vous avec la direction qui lui fait comprendre qu'il n'est peut-être pas à sa place dans une équipe de techniciens.
On se demande ce que vous faites là, Yves Alexandre, avec votre petite veste bleue en velours au milieu de vos collègues.
Sans voir de caractère homophobe dans cette dernière remarque, Orange reconnaît la souffrance du salarié et insiste surtout sur les nombreuses actions menées au sein de l'entreprise contre l'homophobie. Yves Alexandre n'a pas le même ressenti.
Il y a 4 ou 5 ans, en fait, l'association de lutte contre les discriminations LGBT au sein d'Orange a décidé de faire une campagne de lutte contre l'homophobie avec des affiches. Et dans le service dans lequel je travaille, j'ai pu constater qu'elles avaient été arrachées, déchirées. Et j'ai demandé à ce qu'elles soient réaffichées. La direction n'était pas contente que je fasse ces remarques.
En arrêt maladie depuis un an, Yves Alexandre espère maintenant obtenir un congé sans solde de quelques mois pour pouvoir se reconstruire en dehors de l'entreprise.
Le reportage de Laurent Kramer a retrouvé en longueur sur franceinter.fr. Tariq Ramadan devant ses juges aujourd'hui. L'islamologue poursuivi pour 2 viols doit être confronté à sa première accusatrice, Enda Ayari, dont la version a plusieurs fois changé devant les enquêteurs. La garde à vue de Thierry Soler, elle a été levée hier soir pour raison médicale suite à un malaise. Pas de mise en examen à ce stade, mais il reste 8 heures de garde à vue aux enquêteurs qui soupçonnent le député des Hauts-de-Seine de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. Elles n'auront lieu que dans un an, mais les partis politiques s'y préparent déjà, enfin surtout les partis de gauche. On parle ici des élections européennes de mai 2019 et du choix des têtes de liste. Pour Europe Écologie Les Verts et pour les communistes, l'affaire est réglée. Pour les insoumis, c'est en voie de lettre d'ici la semaine prochaine. Mais les autres préfèrent, eux, laisser passer l'été, Yael Gauze.
À 10 mois du scrutin, et sauf fusion de liste, ils ne sont pour l'instant que 2 dans les starting blocks. L'adjoint au maire de Paris, Yann Brossat, pour les communistes, c'est fait depuis le mois de juin, et l'eurodéputé Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, investi lundi. Partir tôt pour pouvoir imposer ses thèmes, même stratégie chez ces 2 têtes de liste.
On veut être prêt pour convaincre. La plupart des formations font du scrutin européen, un scrutin national, de politique politicienne. C'est pas le cas des écologistes.
Nous, les communistes, nous avons fait le choix inverse, qui est de prendre au sérieux cette élection. Si on veut avoir un vrai débat, on a évidemment intérêt à ce que tout le monde soit désigné assez vite.
Mais il va falloir patienter, car les autres formations ne sont pas du tout pressées. Problème de casting avec ce dilemme dans l'opposition face à Emmanuel Macron et dans la perspective de 2022. Faut-il rester député français, numéro 1 de sa région, ou bien s'expatrier comme eurodéputé? C'est pour ça qu'Olivier Faure, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Laurent Wauquiez ne se bousculent pas au portillon. Problème de casting et de ligne. Le débat européen clive à l'intérieur même du PS et des Républicains. Quant à La République En Marche, qui joue à fond la carte pro-européenne, elle rencontre elle aussi des difficultés, à tel point que Christophe Castaner, le patron du parti, s'est dit prêt à se dévouer.
Yael Gauze, chef du service politique de France Inter.
À l'étranger, Israël qui vote ce matin pour une loi très controversée.
Oui, le Parlement israélien vient d'adopter un texte qui définit l'État hébreu comme l'État-nation du peuple juif. Une promesse de longue date de Benjamin Netanyahou, une loi qui fait par exemple de l'hébreu la seule langue officielle désormais du pays, supprimant de fait la langue arabe. Alors que les Arabes israéliens représentent 20% de la population, les députés arabes voient dans ce texte la mort, je cite, de la démocratie. Direction New Delhi, en Inde, avec cette enquête très troublante qui vise depuis 10 jours une véritable institution du pays. Les missionnaires de la charité, fondée par Mère Teresa, l'organisation est accusée d'avoir vendu des nourrissons à des couples en procédure d'adoption. Une affaire révélée suite aux aveux d'une nonne de l'organisation. Les précisions de Sébastien Farcy.
Dans cette vidéo diffusée par la police indienne, une nonne avoue aux agents avoir vendu 3 enfants à des couples et donné un 4e. Cette confession versée au dossier d'instruction fait l'effet d'une bombe en Inde et vient entacher l'organisation des missionnaires de la charité fondée en 1950 par Mère Teresa. La religieuse incriminée ainsi qu'une autre employée aurait demandé 1500 euros à un couple qui a finalement porté plainte et révélé l'existence de ce trafic. Celui-ci durerait en fait depuis quelque temps, car dans leur foyer pour femmes enceintes et célibataires, 450 enfants sont nés depuis 3 ans, mais seulement 170 ont été enregistrés, aucune trace donc des 280 bébés restants. Or c'est justement il y a 3 ans que les missionnaires de la charité ont arrêté de fournir des enfants à l'adoption publique suite à un renforcement des procédures. L'organisation catholique nie l'existence d'un tel commerce et affirme que ceci est une opération de calomnie de la part des groupes hindouistes, mais le gouvernement a demandé une enquête immédiate dans tous leurs foyers situés en Inde. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Toujours à l'étranger, la Maison Blanche au cœur d'une nouvelle polémique. Question hier d'un journaliste de Fox News au président américain sur le principe de la défense mutuelle au sein de l'OTAN. Si le Monténégro est attaqué, demande le journaliste, pourquoi mon fils devrait-il aller là-bas pour les défendre? Je comprends ce que vous dites, a répondu Trump. Le Monténégro est, je cite, un tout petit pays avec des gens très forts et très agressifs, allant jusqu'à laisser entendre que cette agressivité pourrait déclencher, je cite, la Troisième Guerre mondiale.
On termine, Sébastien Logeni, avec une image que l'on ne voit normalement qu'aux fêtes de Pâques, des cloches qui volent.
Des cloches de près d'une tonne, oui, qui volent dans le ciel de l'Aveyron, précisément à Conques, en Rouergue, dont l'abbatiale est classée à l'UNESCO. Ces cloches vieilles de près de 10 siècles méritaient un petit rafraîchissement. Direction donc l'atelier de réparation, mais par hélicoptère. Le reportage de Pierre Viau de France Bleu Occitanie.
Le ballet de l'hélico blanc aura duré à peine 15 minutes au-dessus de Conques. Le temps d'élitreuiller les 3 cloches de 425, 333 et 79 kilos, du clocher de l'abbatiale à un camion plateau garé à l'entrée du village, le tout sous l'œil admiratif des habitants.
Je trouve ça remarquable, parce que voir les cloches qui s'envolent, c'est pas tous les jours, c'est un peu d'émotion.
C'est beau à voir, c'est étonnant de voir une cloche comme ça partir en l'air. Moi, c'est la première fois que je les vois.
De fait, l'exercice est une prouesse. Le dernier élitreuillage de cloches remonte à Pâques 95 à Rocamadour. Et c'était déjà l'œuvre de l'entreprise Baudet, son directeur régional, Pascal Minier.
Il y a un travail mécanique qui est fait pour redonner donc à la cloche son aspect d'origine et sa tonalité d'origine, puisqu'il y a deux cloches sur les trois qui ne peuvent plus sonner puisque fêlées.
L'hélicoptère s'éloigne, sous l'œil un brin ému des sept frères de l'abbaye de Conques qui ne voient pas tous les jours leur cloche s'envoler. C'est ce que dit le frère Jean-Daniel.
Les cloches vont beaucoup nous manquer. Parce qu'elles rythment la journée. Le matin, le midi et le soir, elles sonnent l'Angélus. Elles sonnent les heures, sauf la nuit. Voilà, c'est une belle présence. Le village va être silencieux. On espère qu'on aura tous des montres bien à l'heure, ce qui n'est pas évident.
Le retour des cloches, l'enhumage, disent les professionnels, se fera à l'automne prochain et à nouveau avec l'aide de l'hélicoptère. Pierre Viaud, France Bleu Occitanie pour France Inter.
Allez, on revient sur Terre pour finir avec cette dernière information qui nous concerne directement. Dotation budgétaire en baisse pour le service public de l'audiovisuel. 180 millions d'euros en moins d'ici 2022 pour France Télé et Radio France. Des révélations de nos confrères des Échos. Il n'empêche, Frédéric, qu'on est encore là, et bien là, avec de bonnes audiences. Vous avez sous les yeux les derniers résultats de Médiamétrie. Hein.
On est là, plus que jamais, Sébastien Logeni, pour la deuxième saison consécutive. France Inter rassemble 6 millions d'auditeurs chaque jour. Le 7-9 de France Inter reste la première matinale de France, selon tous les indicateurs du bulletin Médiamétrie pour cette période avril-juin 2018. Cette matinale, votre matinale, qui rassemble chaque jour 3 615 000 auditeurs. Merci à vous, merci de votre fidélité. Le journal de 8 heures que vous présentez, Sébastien, est le plus écouté de France. Merci à tous les auditeurs. Merci pour votre fidélité.